Nous étudions cet évangile de Luc depuis un certain temps, je crois, depuis décembre dernier, et nous avançons chapitre par chapitre. Ici, le texte que nous avons plutôt l'habitude de lire le dimanche des Rameaux, mais puisque c'est le texte suivant, nous allons l'aborder ce matin, début juillet. Dans cet évangile, c'est ici qu'on s'approche finalement du dénouement. La fin arrive, il reste quelques chapitres. Et Luc nous conduit dans cet aperçu de la vie du ministère de Jésus-Christ. Et là, avec cette arrivée à Jérusalem, on s'approche du dénouement. Parce que là, souvent, Luc nous avait dit dans cet évangile que Jésus était en route pour Jérusalem. Jésus faisait ce voyage vers Jérusalem, il marche vers cette ville. Et Luc répète cette idée souvent dans l'évangile. C'est en quelque sorte un récit du voyage de Jésus vers Jérusalem, vers ce rendez-vous important qu'il a dans cette ville. Et ici, chapitre 19, c'est un moment très fort puisque c'est le moment où il arrive. Après tout ce voyage qui dure depuis des chapitres maintenant, c'est le moment où il arrive à destination. Cet été, vous avez peut-être prévu de visiter une ville, le Mont-Saint-Michel, Strasbourg, Rio. Voilà. Si vous voulez être là avant 21h ce soir, vous êtes un peu en retard. Mais en tout cas, vous avez peut-être prévu un voyage pour visiter une ville, rendre visite à des personnes. Et surtout si le voyage est long, eh bien, il y a ce moment fort où vous arrivez à destination. Et là, vous avez les premières impressions, l'accueil de la ville, tout ça qui vous attend. Et c'est ce moment d'arrivée qui est fort. Eh bien, c'est ça que nous avons ici en Luc 19. Ce moment d'arrivée à la destination prévue depuis tout cet évangile, en quelque sorte. Ou bien une autre manière de comprendre ce chapitre, vous savez, les notables, les autorités, parfois ils se permettent de faire une visite incognito et pour voir des gens, pour rendre visite. Et au lieu de sortir d'annoncer ça ou sortir tout le cortège, ils font une visite surprise, une visite incognito. Et c'est un peu ce que Jésus fait ici, bien que ce ne soit pas si incognito que ça. On a eu des indices que Jésus il est venu pour ça. Le mot visite, même, c'est, je crois, un petit mot-clé de cet évangile, puisque Luc nous prépare pendant son récit pour cette visite que Jésus va faire à Jérusalem. Déjà en chapitre 1, avec l'histoire de Zacharie, la naissance de Jésus-Christ, tout ça, de Jean-Baptiste, Zacharie avait prononcé « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Puis un peu plus tard, en Luc chapitre 7, on voyait Jésus et on disait « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et dans un sens plus large, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui visite notre monde, qui nous visite, qui nous rend visite. Et dans cet évangile et dans ce chapitre notamment, la grande reproche qu'on peut faire à Jérusalem, en verset 44, c'est que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Et pour nous, c'est ça la question, peut-être pour nous ce matin, saurions-nous reconnaître celui qui nous rend visite, saurions-nous reconnaître ce temps où Dieu nous visite? La question dans ce chapitre, c'est finalement qui est ce visiteur? Qui est ce visiteur qui débarque en visite à Jérusalem? Et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous ce matin. On va voir que ce visiteur, c'est un roi qui triomphe. Et puis on verra la suite plus tard. Je ne veux pas dévoiler tout pour l'instant. Tout d'abord, le roi qui triomphe. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que Jésus débarque dans cette ville ou qu'il visite cette ville de Jérusalem. On l'a souvent retrouvé à Jérusalem. Mais cette fois-ci, c'est une autre visite. Cette fois-ci, c'est la visite officielle. Cette fois-ci, il se présente vraiment comme un roi. Vous avez vu ça dans le texte lu. Moi, je peux visiter Paris, mais quand la reine d'Angleterre visite Paris, on se prend autrement, c'est autre chose. Et ici, la manière que Jésus visite qui débarque à Jérusalem, c'est vraiment avec des prétentions royales. La manière que Jésus réquisitionne une monture, la manière d'étendre les vêtements sur la route, la manière qu'il cite ce psaume, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », il se présente comme vraiment le roi victorieux, le roi qui triomphe. Napoléon qui fait construire un arc de triomphe pour arriver à Paris, voilà, c'est une autre manière de visiter Paris que peut-être vous et moi pouvons visiter une ville comme ça. Mais cette manière que Jésus arrive cette fois-ci à Jérusalem montre que c'est vraiment un roi qui prétend être un roi, qui se présente comme un roi. Et les scribes et les pharisiens du milieu de la foule, eux, peut-être mieux que nous, comprennent les enjeux des gestes de Jésus, des paroles de cette foule qui lui sont adressées. Et eux, pour eux, il y a un problème d'autorité. Jésus se permet de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Ils disent, « Maître, reprends tes disciples, verset 39. Tu ne devrais pas les laisser parler comme ça, parce que c'est normalement ce genre de langage, cet entourage, ce défilé, cette acclamation, ça c'est réservé pour une visite officielle d'un roi. » Donc, ils n'aiment pas ça. Et dans le chapitre 20, nous n'avons pas lu, mais tout au début, ils veulent savoir, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Donc, ils reconnaissent que la manière que Jésus se présente cette fois-ci à Jérusalem, c'est une affirmation d'autorité. Ils n'aiment pas ça. Et c'est vrai que même aujourd'hui, ceux qui font connaissance avec Jésus, rapidement, ils sont confrontés avec ces prétentions royales, ces prétentions d'autorité sur notre vie. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les branches de palmier qui nous dérangent, mais ça va être les paroles de Jésus, les commandements de Jésus, les standards éthiques de Jésus. Ça dérange notre époque et surtout en France, on est très méfiant à toute prétention d'autorité. On n'aime pas accorder les gens cette autorité sur notre vie. La France est méfiante. Donc quand ils voient Jésus débarquer dans notre vie, dans notre cœur, on réagit un peu comme ces pharisiens. Qui te permet de faire une telle chose? Qui te permet de dire une telle chose pour moi? Qui t'a nommé autorité roi sur ma vie? Ça passe pas. Mais quand on creuse un peu la manière que ce roi se présente, Jésus offre une correction, une aide en tout cas pour notre société qui est méfiante par rapport aux abus de l'autorité, vu le passé en France. Récemment, avec ma sœur, on visite, en quelque sorte, parce qu'elle est là, on profite de visiter, donc on a visité le musée des Augustins, le fameux musée à Toulouse. J'avoue que c'est la première fois que j'étais allé au musée des Augustins depuis toutes ces années sur Toulouse. Mais dans la salle principale des peintures, on trouve un énorme tableau, mais vraiment grand, ça fait deux étages, c'est énorme. Mon fils Étienne, qui avait déjà visité ça, il a dû m'expliquer comment ils ont fait pour entrer même le tableau. Il fallait découper tout un pan de mur pour entrer ce fameux tableau. Et ce tableau s'intitule « L'entrée du sultan Mehmed II à Constantinople le 29 mai 1453 ». Et là, je peux vous donner même une photo pour vous aider. Alors là, c'est l'entrée triomphale de l'islam en Europe, finalement. C'est un moment important dans l'histoire, puisque Constantinople, depuis des siècles, dans l'empire plutôt européen, et tombe donc aux mains de ceux qui montent du sud. Et donc on a ce tableau de l'entrée triomphale de ce sultan. Et bien sûr, c'est impressionnant, déjà par sa grandeur, et puis, comme vous voyez, des cadavres qui gisent au sol. Ce roi, il est entouré de soldats avec des épées et des lances. Donc ça, c'est une manière d'arriver dans une ville, et c'est une manière marquante d'arriver dans une ville. Jésus aurait pu arriver, débarquer ainsi dans notre monde. Il aurait pu assurer sa conquête ainsi, mais ce n'est pas de cette manière qu'il s'est pris. Et c'est ça qui est beau pour nous. ce roi qui triomphe, c'est aussi le roi qui s'abaisse. Et donc, il n'y a pas une telle scène dans l'arrivée de Jésus, dans sa visite. Il y a ce cantique de Noël que nous chantons, qui dit « Il vient à nous débonnaire et de grâce couronné ». Et couronné de grâce, il vient de manière débonnaire, notamment sur cette ânesse, et tous les détails de ce passage montrent une humilité, un abaissement. Il est entouré plutôt d'enfants, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cadavres. Partout, il y a une joie, il y a une simplicité. Tout ça pour visiter notre monde, visiter nos cœurs de la manière la plus facile pour nous de l'accueillir. Et puis, bien sûr, le véritable but de sa visite en tant que roi pour triompher, ce n'était pas de monter sur un trône. Ce jour-là, cette semaine-là, il n'avait pas prévu de monter sur un trône. Il avait prévu de monter sur une croix. Et c'est là, cette croix, qui va assurer sa triomphe, sa victoire. C'est là où il va devenir pour nous le meilleur des rois. Alors si vous trouvez l'autorité de Jésus difficile à encaisser, à endosser dans votre vie, pensez à cette manière qu'il est arrivé dans notre monde, cette manière qu'il veut arriver dans nos cœurs. Ce roi, il va triompher autrement que les autorités qui abusent le pouvoir ou qui manipulent. Justement, Jésus, à la fin du chapitre 20, il met en garde le peuple contre les mauvaises autorités. Il dit « Gardez-vous les scribes qui aiment se promener en robe longue, être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges, les premières places, qui dévorent les maisons des veuves. » Tant d'autorités, effectivement, utilisaient leur pouvoir pour abuser, pour s'enrichir, aux dépens des personnes faibles comme des veuves. Ils ont utilisé la religion pour se donner les premières places. Et Jésus dit, oui, méfiez-vous de ce genre d'autorité, mais dans sa personne, dans sa manière d'arriver, dans sa manière de nous rendre visite, il montre toute autre chose pour nous aider à l'accepter, à le reconnaître, à l'accueillir dignement le visiteur qu'il est, comme le visiteur qu'il est. Donc ensuite, c'était le roi qui triomphe. Deuxièmement, nous voyons ici ce visiteur, c'est un prophète qui pleure. Lors de cette visite à Jérusalem, cette arrivée, Jésus se présente non seulement comme un roi, mais clairement comme un prophète. Vous connaissez ce que fait un prophète, notamment dans l'Ancien Testament. Un prophète annonce la parole de Dieu, enseigne le peuple, aussi fait des prophéties sur l'avenir. C'est justement ce que Jésus fait lors de son arrivée dans le temple, notamment. Vous regardez chapitre 20, verset 1. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Donc voilà, il se comporte en prophète par cette annonce de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, l'enseignement dans le temple. Matthieu aussi précise, Matthieu 21, verset 10 et 11, cette même récit de l'entrée triomphale. Matthieu dit que lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc sa manière de se comporter a fait tout le monde penser que c'était un prophète. Et si vous lisez le chapitre 20, notamment la suite, la manière que Jésus est dans le temple, qu'il enseigne, en fait, le chapitre 20, c'est là pour montrer à quel point Jésus connaît mieux la pensée de Dieu que les autorités religieuses. Chapitre 20, c'est le récit de toutes ces questions pièges qu'on vient de poser à Jésus. D'abord, d'où vient ton autorité? Et puis, est-ce qu'il faut payer les impôts à César? Et puis, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection disent, ils montent une histoire avec plusieurs, une personne qui a eu plusieurs femmes suite au décès les unes après les autres. Et pour poser problème à la résurrection. Et donc Jésus répond à toutes ces questions difficiles, ces questions qui sont pièges, de manière parfaite, de manière pertinente. Il montre qu'il connaît parfaitement la parole de Dieu, il montre qu'il connaît parfaitement la pensée de Dieu, il montre qu'il est capable d'enseigner, de révéler toute la vérité, contrairement à ceux qui devaient enseigner, ceux qui devaient transmettre la révélation de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Eux, on voyait qu'il est qui ne maîtrisait pas, mais Jésus, il maîtrise. Ça, c'est ce qu'il va faire en chapitre 20, comme le vrai prophète prophète qu'attendait le peuple. Mais plus encore que ça, je dis que c'est le prophète qui pleure. Parce que Luc, il inclut une scène touchante en chapitre 19. Vous avez vu ça en verset 41. Jésus s'approche de la ville, cette ville de Jérusalem. Et Jérusalem, en tant que capitale, représente tout le peuple juif. Et il est là et finalement, il prophétise la destruction imminente de Jérusalem par les armées romaines. Verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. C'était quelque chose qui était sur le point d'arriver. Dans quelques décennies, les armées romaines allaient détruire Jérusalem. Et tout ça, Jésus voit cette ville et il pleure sur elle en pensant à ce qu'il attend. Ça c'est intéressant, c'est évocateur aussi. Connaissez-vous quelqu'un qui a pleuré, lamenté sur Jérusalem, qui a annoncé la destruction de Jérusalem, qui a tout fait pour éviter cette destruction de Jérusalem, mais le peuple qui n'a pas voulu l'écouter, eh bien, la ville a été détruite, il a pleuré sur cette ville. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il y a bien un prophète comme ça, c'est Jérémie. Jérémie, le grand prophète, il a prophétisé la menace, il a averti le peuple, il a constamment rappelé le message de Dieu en tant que vrai prophète. Le peuple n'a jamais voulu l'écouter, eh bien, les armées sont venues détruire Jérusalem. Mais pendant tout ça, on voit le cœur de Jérémie, son cœur de tristesse, il pleure, et donc il va écrire même un livre qui s'intitule Les Lamentations, où il pleure sur le sort de Jérusalem. Donc, ici, Jésus se comporte vraiment comme un prophète, notamment comme un des grands prophètes connus de l'Ancien Testament. Et ça, je trouve touchant. Autant c'est le roi qui s'abaisse, qui triomphe par un abaissement, autant c'est le prophète qui pleure, qui annonce des choses sévères, qui annonce la destruction, le jugement, mais rempli de compassion, de pleurs. Et ces pleurs rendent sa visite encore plus touchante, plus forte. Les avertissements sévères des prophètes de l'Ancien Testament, comme ceux de Jésus ici, n'étaient pas une preuve d'une manque d'amour, mais au contraire, c'était la preuve de leur amour, de leur désir pour ce peuple de se tourner vers Dieu, de reconnaître l'offre de Dieu, la visite de Dieu, chose qu'il ne voulait pas faire, et donc il courait le risque du jugement. Donc le roi qui triomphe, le prophète qui pleure, et ensuite le sacrificateur qui intercède. Où est-ce qu'on voit ça? Eh bien, dans les versets suivants, versets 45 à 47, dans la plupart des évangiles, l'entrée triomphale est toujours suivie par la purification du temple, où Jésus, vous connaissez, chasse les vendeurs du temple. Et c'est vrai que Jésus rend visite à cette ville, et plus particulièrement, le cœur de cette ville, le cœur de Jérusalem, c'est le temple. Donc voilà, Jésus, il débarque finalement dans le temple, il visite le temple. Et Luc dit que dès qu'il entre dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, finalement? En tout cas, pour nous aider à reconnaître qui il est en tant que visiteur. Bien, normalement, c'était le travail, justement, des sacrificateurs, des lévites, d'entretenir le temple. Ils étaient là pour accueillir les gens, pour recevoir les offrandes, les sacrifices du peuple, et pour les sacrificateurs avaient ce rôle d'intercession pour offrir les sacrifices pour le peuple, envers Dieu, et puis bénir le peuple en retour, prier pour le peuple. Or, au lieu d'avoir fait ce travail, les sacrificateurs à cette époque, les principaux sacrificateurs, au lieu d'avoir fait ce travail, ils avaient installé ce trafic pas possible dans le temple. Et ils avaient même installé leur business là, dans le parvis du temple, qui était censé être un lieu de prière, un lieu d'accès à Dieu, un lieu de, où les gens pouvaient prier Dieu, rencontrer Dieu en quelque sorte par leur prière, par les offrandes. Et au lieu de cette maison de prière, c'était devenu une maison de trafic, une maison de voleurs. Et en plus, on pense que là, ils étaient installés toutes leurs affaires. C'était dans le parvis des gentils, notamment le lieu où les non-juifs pouvaient quand même aller pour prier, pour rencontrer Dieu. Après, effectivement, c'était bloqué, l'accès était bloqué au-delà de ça, mais il y avait au moins le parvis des gentils où les non-juifs pouvaient avoir accès à Dieu. Et donc, on pense que c'est certainement là où ils ont installé toutes ces tables, toutes les changeurs de monnaie, les animaux, créant un brouhaha terrible, pénalisant toute personne qui voulait vraiment s'approcher de Dieu. Et donc, que fait Jésus en chassant tout ça? Eh bien, il fait le travail d'un vrai sacrificateur. C'est-à-dire, il ouvre l'accès à Dieu, il enlève les obstacles, il intercède pour le peuple qui veut s'approcher de Dieu, le peuple qui veut vraiment offrir des sacrifices et ne pas être juste roulé dans la farine par les chefs en place. Il chasse tout ça et ainsi il rend la prière, la communion avec Dieu possible. En tout cas, voilà le sens de sa geste. Donc c'est un sacrificateur qui intercède, il fait ce que les sacrificateurs n'ont pas fait. Eux, ils mettaient plutôt des obstacles au peuple pour accéder à Dieu. Puisqu'il y avait tous ces principes, ces lois, on ne pouvait pas acheter un sacrifice, il fallait acheter avec l'argent du temple. Donc les gens qui venaient en loin devaient changer leur argent pour avoir l'argent du temple. Bien sûr, il y avait une commission, il y avait un trafic. Et après, en plus, tout ça pénalisait les non-juifs. Donc Jésus, il rouvre de nouveau l'accès à Dieu. Donc ça c'est il intercède, il est ce médiateur, il est ce sacrificateur dans le temple. Et nous aussi, hein, nous avons besoin de quelqu'un comme ça qui débarque dans notre cœur, qui fait le ménage, qui enlève les obstacles, qui enlève le péché, qui purifie pour nous redonner accès à Dieu. Bien sûr, Jésus, quand il fait ça, c'est intéressant, c'est en faisant ça que vraiment il fâche les autorités. Et le verset suivant dit que à partir de ce moment, les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Donc, ce geste qu'il a fait, c'était au risque de sa vie, au péril de sa vie, ça va lui coûter sa vie. Tout comme lorsqu'il doit purifier nos cœurs, ça aussi, ça va lui coûter sa vie. Il va devoir donner sa vie pour nous, pour purifier nos cœurs, pour en faire un temple, pour ouvrir l'accès à Dieu. Alors maintenant, vous voyez tout ça, ce qui me paraît assez clair dans cette visite. Le visiteur se présente comme un roi qui triomphe, clairement comme un roi, clairement comme un prophète qui enseigne, qui prophétise, à l'instar de grands prophètes comme Jérémie, et puis comme un sacrificateur qui rouvre l'accès à Dieu. Alors, finalement, c'est qui ce visiteur qui est roi, sacrificateur et prophète? Les Juifs de Jérusalem, en tout cas, devraient le savoir. Les Juifs de Jérusalem devaient savoir qui était ce visiteur. Parce qu'ils connaissaient bien dans l'Ancien Testament les trois offices qui détenaient l'autorité dans le peuple, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et en tant que tels, ces offices qui dirigeaient le peuple, en tant que tels, ces fonctions d'autorité recevaient une onction. Hein, les rois, on les oignait, les prophètes aussi, les sacrificateurs aussi, lorsqu'ils prenaient leur rôle, leur responsabilité, leur fonction. Et vous savez que le mot Christ, le mot Messie, ça veut dire « oint ». Donc les oints de l'Ancien Testament, les Christ de l'Ancien Testament, dans la mesure qu'ils étaient oints pour une tâche, c'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Alors voilà ce visiteur qui débarque, qui montre qu'il est le vrai roi, le vrai prophète, le vrai sacrificateur. Donc c'est qui? C'est le Christ, c'est loin par excellence. Voilà le visiteur. Alors normalement, un tel visiteur, il faut le recevoir comme le Christ, le Messie. Et c'est vrai que dans toute la Bible, on fait ressortir un peu ces fonctions de Jésus-Christ. Il est notre roi, il est notre prophète, notre sacrificateur. C'est Calvin qui a surtout résumé, organisé la pensée ainsi. Depuis lui, on en parle beaucoup, mais tout étudiant de la Bible a pu le voir, qu'effectivement, loin, le Messie, ça veut dire loin. Donc, dans l'Ancien Testament, les rois étaient loin, les prophètes étaient loin, les sacrificateurs étaient loin. Et Jésus accomplit parfaitement ces choses. Et souvent, on pense que le Christ, le Messie, on associe ça à un besoin juif, mais Luc, ici, il n'écrit pas spécialement pour les juifs, il écrit notamment pour une audience grecque, mais pour leur montrer qu'ils ont tout autant besoin d'être visités par quelqu'un comme ça, ils ont tout autant besoin d'être visités par Christ, le Christ. Et quand on y pense à ce qui est ce visiteur, le roi, prophète et sacrificateur, c'est vrai qu'il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose d'équilibré dans cette manière de penser à Jésus-Christ, dans cette manière qui s'est présentée. Et on reconnaît que c'est aussi le besoin de nos cœurs. On a besoin de quelqu'un qui nous dirige, quelqu'un qui nous défend, quelqu'un qui nous protège comme un roi. Mais pas que ça, on a besoin de quelqu'un qui nous instruit. Qui nous enseigne, qui nous révèle toute la pensée de Dieu, parce qu'on ne peut pas, nous, l'inventer nous-mêmes ou le trouver nous-mêmes. L'homme s'est perdu en essayant lui-même de trouver la vérité. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous révèle d'en haut la pensée de Dieu. Donc on a besoin du vrai prophète. Mais plus qu'un enseignement, on a besoin de quelqu'un qui ouvre l'accès à Dieu, qui intercède pour nous. Qui se sacrifie pour nous, qui nous purifie. Et c'est ce que Jésus a fait. Bien sûr, les gens ont trouvé beaucoup d'implications et d'applications à ce triple fonction de Jésus-Christ, roi, prophète et sacrificateur. C'est même un modèle classique d'autorité, de la bonne autorité. Quand on veut bien diriger une famille, une église, une entreprise, c'est souvent qu'il faut. Il faut un côté administratif, il faut un côté éducatif, il faut un côté relationnel. Un père de famille peut dire, moi j'ai besoin de diriger ma famille, mais toujours dans la douceur, dans l'humilité, comme Jésus-Christ. J'ai besoin d'instruire ma famille, parfois avec patience, avec pleurs, avec larmes, comme a fait Jésus-Christ. Et aussi, j'ai besoin de prier pour ma famille, d'intercéder pour ma famille, de constamment ouvrir l'accès à Dieu, de les conduire à Dieu. Un peu ce travail de sacrificateur. Bien sûr, et que Jésus-Christ, qui est le roi, le prophète et le sacrificateur qui nous sauve. Mais chacun peut trouver des implications pour sa vie. Et c'est celui-là, ce visiteur-là qu'il nous faut. Il veut nous rendre visite. Il veut nous visiter encore ce matin. Il y a peut-être une situation dans votre vie où vous avez particulièrement besoin d'un roi pour triompher, pour administrer, pour diriger vos pas dans la bonne voie. Christ peut l'être. Peut-être vous avez une situation où il vous faut vraiment le prophète pour révéler toute la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Il va la faire par sa parole. En vous annonçant la parole et la bonne nouvelle. Vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui vous purifie, qui restaure la communion avec Dieu, qui dégage l'accès, ce que aussi Jésus veut faire. Oui, nous avons besoin que Dieu nous visite en Christ. J'ai pensé à ce verset en 1 Pierre, chapitre 2, où il est question que Dieu, il visite les païens. Et c'est comme une promesse qu'il parle du jour que Dieu les visitera. Le monde, les non-croyants, les païens. Il y a un jour où Dieu visite chaque individu, je pense. Toute personne a droit à la visite de Dieu un jour dans sa vie. C'est comme c'est un jour où il débarque. Comme Jésus évoque ici le jour. Au moins en ce jour qui t'est donné. Parfois, oui, ce sera une visite un peu incognito, une visite surprise. On ne s'attend pas à ce que Dieu se présente ainsi. Le peuple ne s'attendait pas à ce que le Messie ait exactement ces traits-là. Bien que c'était assez clair que c'était le Christ, le Messie qu'ils attendaient depuis toujours, beaucoup ne l'ont pas reconnu, puisqu'il est venu dans l'humilité, dans les larmes. Mais Dieu accorde chaque personne dans ce monde une visite. Une visite en douceur, une visite amicale, une visite pour sauver. La question, c'est, saura-t-on reconnaître ce jour? Il ne faut pas rater ce jour. C'était le drame de Jérusalem, du peuple juif. Ils n'ont pas reconnu le visiteur. Et au lieu de l'accueillir avec toutes les honneurs, comme ils auraient dû faire, ils l'ont crucifié quelques jours plus tard. Mais pensez, quel privilège, quel honneur d'être visité par Dieu. Quel privilège d'être visité par le grand roi. On a évoqué ce matin toute sa grande puissance, sa grandeur. Eh bien, ce Dieu puissant, il est venu nous rendre visite. Et il veut visiter nos cœurs ce matin pour les consoler, pour les diriger, pour les purifier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer dans la prière.